BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Salut à toutes et à tous, bienvenue ici dans De quoi je me mêle et bienvenue à VivaTech pour cette 8e édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous tech du week-end, vous le savez, vos 52 minutes de tech à la fois en audio, en vidéo, dès le vendredi, en exclusivité en podcast audio et sur la chaîne Tech & Co, en vidéo sur YouTube, et puis le week-end, bien évidemment, sur BFM Business. Un De quoi je me mêle exceptionnel, donc depuis VivaTech, avec nos experts, on va débriefer tout ce qu'on a pu voir ici. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir sur Twitter, bien évidemment. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et regardez ce beau plateau, enfin regardez, imaginez si vous êtes avec nous en audio. Et si vous avez la vidéo, ben vous le voyez, c'est superbe. Nous sommes au cœur de ce salon. Et pour commenter l'actu de VivaTech, nous avons Mélinda Damansoula cette semaine. Salut Mélinda.
Bonjour François, bonjour les garçons.
J'ai l'impression d'être un peu battleur dans un hypermarché, tu sais, je crie un peu plus fort.
Il y a beaucoup de bruit, hein.
Et les promos sur les steaks hachés à la droite, mesdames, messieurs. Anthony Morel qui vous propose, je ne sais pas moi, une petite démo cuisine,
oui,
peut-être.
Exactement. Du fromage, de la charcuterie, tout ce que vous voulez.
Tout ce que vous voulez.
2 euros la côte de porc.
Il n'y a pas de problème. Anthony est là aussi. Salut Anthony.
Salut François, salut tout le monde.
Et les gars, Mélinda et Anthony, on a Bruno Guglielminetti avec nous.
Mais oui.
Salut
ouais.
Bruno.
Salut, salut.
La première fois dans De quoi je me mêle, Bruno.
En 20 ans, 24 ans, j'ai attendu 24 ans pour être invité. Mais bon, ça allait l'occasion quand même.
Si vous ne connaissez pas Bruno Guglielminetti, les amis, honte à vous, excusez-moi de vous le dire comme ça, hein, à brûle pour point, comme ça, de but en blanc, mais c'est quand même la star de la tech au Québec. Voilà, notre journaliste référent qui est venu ici à VivaTech et on s'est dit on ne peut pas passer à côté de monsieur Bruno Guglielminetti. On est très heureux de t'accueillir.
Ben merci.
Parce que je sais que tu es un fidèle auditeur de quoi je mêle depuis quelques années.
Oui.
Voilà, et je suis très fier de t'accueillir.
Merci.
Voilà. Bon, alors, petite sélection chacun de ce que vous avez vu à VivaTech. Pour le petit module bonus à la fin, vous le savez, qui est disponible qu'en podcast audio, on se décrochera de VivaTech, Mélinda, pour parler d'un produit qu'on attend depuis la nuit des temps chez Sonos. C'est le casque audio qui arrive.
Enfin, on a envie de dire, on n'y croyait plus.
On l'a vu, on l'a touché.
On sait qu'il est vrai. Désormais, on sait enfin qu'il existe vraiment, ouais. Que ce n'est pas
On l'a vu, on l'a touché, ouais. Mais on n'a pas entendu. Enfin, ouais. On l'a entendu, mais...
On n'a pas le droit de le dire.
Enfin, Bruno...
On n'a pas le droit de le dire.
Et on va voir. Vous avez vu, c'est un peu tendax quand même. Ouais. Vous savez, avec les embargos, les trucs ouais. comme ça, c'est toujours un peu compliqué.
C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'au bonus.
C'est ça. Ouais. Donc, le bonus, vous en saurez un petit peu plus. Peut-être qu'on sera viré après, mais on verra.
Non, mais ça sera moi, c'est tout.
Ça sera toi.
Ça sera moi.
Ben voilà.
Je repars.
Au revoir, petit oiseau,
Bruno.
Je repars
avec mon secret. Au revoir.
Tu nous as quittés. Merci. Bon, alors, plus sérieusement, les amis. Alors, Anthony a vu plein de choses. On a parlé beaucoup de e-santé.
Oui.
Parce que, en fait, ici, c'est un peu notre terrain de jeu. Mmh. Vous faites 10 mètres, vous avez plein de trucs sympas. Voilà. Il y a de l'IA partout, de la robotique, on le disait, de la santé. Mélinda a même trouvé, parce que Mélinda aime bien les plaisirs simples, que ce soit les bijoux, mais aussi le vin.
Mais oui,
tu as trouvé
les
des
plaisirs
trucs
de
sympas.
La vie.
Voilà, parfait.
Et du sport quand même, un petit peu. Et
un peu de sport quand même, parce qu'il faut.
Les personnalités des uns et des autres qui se dégagent. Moi, complètement hypochondriaque.
C'est vrai.
Chacun,
c'est vrai.
Voilà.
Choisissez votre camp.
Il y a un révélateur, en fait.
Et à tout seigneur, tout honneur, j'aimerais qu'on commence par Mélinda quand même, parce qu'il y a une marque qu'on découvre tout le temps quand on va à Las Vegas, c'est Tiffany, qui est un peu le. Je sais pas.
Le joaillier de luxe.
Voilà,
fameux breakfast
américain.
À Tiffany's pour les plus anciens.
Léa, la productrice de l'émission, nous a dit que c'était une marque de beauf quand même. Hein, donc,
D'accord. Ah, ça... Alors moi, je voulais parler élégance.
Après, bon.
C'est raté.
Voilà, je ne prends pas parole.
Non,
je ne dis rien.
Je dis ça comme ça.
Je ne prends pas parti, les amis. Donc, alors, Tiffany est ici.
Oui.
À VivaTech.
Oui, ils sont ici. Vous savez, le principe de VivaTech, c'est d'avoir des marques qui abritent aussi parfois plein de petites start-up. Donc oui, Tiffany n'est pas une petite start-up, mais ils se mettent dans le futur ou la modernité, je ne sais plus comment on doit dire. Ils ont virtualisé leur bague. On sait que le problème, quand on va chez des joailliers de luxe comme ça, si on veut essayer une bague, on vous regarde déjà 357 fois de la tête aux pieds pour savoir si vous méritez d'essayer,
ouais.
S'il n'y a pas de risque que vous vous barriez avec le produit.
On regarde votre carte bleue pour voir si elle est bien black.
Oui, c'est ça. Ah oui, parce que oui, on ne prête pas à tout le monde.
Non, bah non.
On rigole, mais c'est pas loin d'être vrai. Et donc, il y a aussi un autre problème qu'on connaît bien à Paris, les joailliers parisiens connaissent bien, ce sont les vols accessoirement.
Il y en a eu encore un la semaine dernière.
Il y en a eu des braquages. Hein. Quand on veut faire, vous savez, essayer, un client arrive, il veut essayer des bagues, vous sortez tout le coffret et puis bah, les gens se barrent avec le coffret, mais sans passer par la caisse. Là, finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé une alternative qui est l'essayage virtuel ? C'est-à-dire que vous avez un ordinateur, un écran sur lequel vous allez choisir le modèle que vous voulez essayer de bague. Et après, eh bien, vous mettez votre main sous une espèce de petite caméra. Et là, comme par magie sur l'écran, la bague apparaît à votre doigt pour savoir si elle vous va, savoir quelle taille il vous faut aussi. Parce que ça, c'est l'autre problème quand on essaye des bagues. Je ne sais pas si vous êtes capable de savoir quelle est la taille qu'il vous faut, mais moi, je ne sais jamais. Hein, donc, il faut que j'en essaye 50 avant de trouver la bonne taille. Là, le problème est réglé. Donc, vous voyez si la bague vous va, si elle n'est pas trop grosse. Donc,
c'est un peu on peut bouger la main et tout.
Oui, enfin... ouais, ça suit, la caméra suit. C'est vraiment l'IA qui s'adapte à l'essayage virtuel. On connaissait l'essayage virtuel pour les vêtements. Bah, finalement, alors, c'est le même principe, mais pour les bagues.
C'est la question.
Ouais.
Ouais, c'est la question que je voulais te poser d'ailleurs, parce que l'essayage virtuel, effectivement, pour l'avoir testé avec des vêtements, avec des chaussures, avec des montres aussi, le rendu n'est pas toujours hyper réaliste. Peut-être à ce côté un peu gadget où tu vois, c'est sympa, ça bouge avec ma main,
tu
c'est
sais,
rigolo.
Comme certains filtres Snapchat.
Exactement.
Quoi.
Ouais, alors, et donc là, du coup, est-ce que ça s'est amélioré de manière significative ?
Il y a un vrai côté un peu filtre Snapchat, hein, c'est vrai. Mais à la différence d'un vêtement où il y a plus de surface à couvrir.
Tiffany.
Non, mais non, mais non, c'est pas. Mais non, franchement, c'est plutôt, franchement, c'est plutôt bien. C'était plutôt assez réaliste.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand on a fait les filtres Snapchat qui sont, on se moque, mais d'excellente qualité parce qu'il y a vraiment des équipes de pointe qui travaillent chez Snapchat sur les filtres en réalité augmentée. Oui, c'est assez bien fait. Et l'avantage qu'il y a, la taille d'une bague sur une main, c'est pas la taille d'un t-shirt sur vous. Ça, c'est plus facile quand même à modéliser.
C'est vrai.
Mais là, la question que j'ai, c'est à quand la possibilité d'essayer les bagues, maintenant qu'elles sont numérisées, là, à quand la possibilité de pouvoir les essayer à distance?
Alors, tu sais
c'est
qu'il
une bonne
existe.
Idée, ça.
Alors, il existe déjà des services. Souvent, c'était pour les lunettes, par exemple, où on pouvait faire des essayages avec des applis. Tu testes, tu choisis ton modèle et tu essayes virtuellement. En fait, ça existe déjà. C'est vrai que paradoxalement, j'avais jamais vu pour des bagues.
C'est
tout bête.
C'est
tout bête. Mais là, ça les empêche pas maintenant de mettre ça dans d'autres boutiques ailleurs, en fait.
Ce qui est bien, c'est qu'une bague virtuelle, ça coûte quand même vachement moins cher.
Et ça fait autant plaisir de l'avoir sur soi.
Exactement. Tu l'as essayé.
Tu l'as essayé, tu l'as pas.
Tu l'as pas.
Tu t'es dit qu'elle t'allait vachement bien, et quand tu passes à la caisse, t'aperçois que nettement moins.
Non, mais j'imagine toutes les influenceuses qui feraient des séances de photos virtuelles avec la bague de Tiffany. Le temps de faire la session, puis après, pouf.
T'as une belle bague, dis donc, Bruno.
Ouais, je te remercie, mais c'est
elle
pas,
est pas virtuelle.
Ça vient pas là.
Non. C'est pas une Tiffany?
Non.
Bon, très bien. Bruno,
oui.
Après, on donnera la parole à Anthony, mais... Alors, tu es venu ici pour...
Et je repartirai, je te rassure.
Non, mais pourquoi? T'es pas bien, là? Attends. Tout ça parce qu'il nous dit qu'il fait 30 degrés en ce moment au Québec. Non, mais d'accord, OK.
Il fait très beau, en plus, aujourd'hui, à Paris.
Tu voulais nous parler de la tech canadienne présente ici à Vivatech.
Oui, et tu me permets d'être chauvin un instant.
Mais bien sûr.
Merci. Mais ça vaut vraiment la peine. Hein.
J'espère.
Parce que...
Permets-nous, on jugera après. Donc, je ne vais pas mettre la barre haute, mais
non.
Avec Anthony, on va voter.
Mais je veux tellement vous éviter d'avoir à juger. Permettez-moi de vous le dire, la barre, elle est très haute. Bon, on passera à autre chose après, c'est tout. Mais non, c'est ça. Il y a une délégation sous l'égide de Scale AI qui est un peu comme le hub de l'intelligence artificielle au pays. C'est eux qui sont vraiment l'intermédiaire entre l'industrie et le gouvernement. C'est eux qui récemment ont été chercher 2,4 milliards de dollars pour un investissement. Bon, je sais que votre président a annoncé aussi des investissements, là, mais chez nous,
alors, 2,4... on n'a pas encore le chiffre exact.
Non, c'est ça. Nous, au moins, on chiffre. Quand même.
Oui, vous êtes un peu plus... D'accord.
On ose. Et c'est pour ça que la barre est haute. Mais donc, à l'intérieur de cette délégation-là, il y a une soixantaine d'entreprises, et non pas les moindres. Je pense notamment à Moment Factory. Ça ne vous dit probablement pas grand-chose.
Ah, ben,
ça
dit quelque chose. Bon. Je suis allée au reportage chez eux.
Ben, tu vois.
Excellent.
Et
excellent.
Moment Factory, c'est des gros joueurs dans le divertissement. Pensez à Madonna, pensez même le dôme de l'Hôtel des Invalides. Il y a un spectacle présentement depuis l'an dernier qui existe. Bon, ben c'est eux qui l'ont monté. Ils sont partout à travers la planète.
Mais qu'est-ce qu'ils font, en fait? Ils projettent des images? C'est quoi leur job?
Ils font du design d'expérience immersive.
Mmh. Ah, ouais. Okay.
Et là, maintenant, ils ajoutent l'intelligence artificielle là-dedans pour rendre le truc encore plus personnalisé. Mais ils font ils font des petites expériences, mais ils font des trucs gigantesques. Mmh. Par exemple, s'il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont déjà passés à Montréal, il y a un fameux pont qui s'appelle le pont Jacques-Cartier. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée, je ne sais pas si c'était
l'éclairage,
fait quand t'es pas, exactement, de se mettre à éclairer le pont et donc sur l'appui, la poussée d'un bouton, on peut faire changer du bleu au rose en passant par le rouge, au jaune, au vert, un pont au complet.
Et, ouais, bof.
Alors,
ouais, mais bof. Mais alors, c'est moyen ton actuel.
Mais quand tu disais que ça permettait de personnaliser l'expérience, c'est quoi? C'est-à-dire pour chaque utilisateur, tu vas avoir un truc différent?
Exactement. Alors quand on est dans une expérience plus immersive... Bah,
moi, je vais soutenir parce qu'il y a une expérience que vous avez tous vue qui était faite par Moment Factory chez eux parce qu'ils ont un énorme hangar. On avait tous vu cette vidéo d'un hangar géant dans lequel ils jouaient un espèce de pong humain. Ils jouaient au sol, le sol était... Eh bien, c'est Moment Factory qui faisait ça. Okay. En fait, leur spécialité, c'est vraiment tout ce qui va être reconnaissance du corps et des jeux de lumière et de virtualisation.
D'accord.
Alors ça, c'est un exemple. Sinon, je pense à un autre qui me vient en tête, Brainbox AI. C'est un nom très québécois. Là. C'est
difficile. Oui, ça sonne québécois, oui.
Ben, on pourrait même penser que c'est français, hein, oui, avec c'est un vrai nom comme celui-là. Bon. Et donc, Brainbox AI, eux, ce qu'ils font, ils sont reconnus dans le domaine de l'édifice intelligent. Et eux, leur challenge, c'est d'arriver à rendre des édifices là, éco-responsables, si vous voulez. Mais l'idée, c'est de pousser à l'extrême, donc des senseurs partout dans un édifice. Et à la limite, une fois que vous avez ce système-là embarqué, l'édifice se gère par lui-même. Hein. Vous lui dites ce qu'il
veut. Donc, c'est quoi, des bâtiments connectés, c'est ça?
Oui, mais encore plus, parce que le bâtiment peut être à un point tellement connecté qu'il peut être autonome. Et donc, évidemment, contrôle la température. On peut penser les accès. Et donc, en fonction de qui on veut faire rentrer, bien, la personne va rentrer dans un espace. Cet espace-là va être chauffé parce qu'on sait que de telle heure, elle est là. Et puis, l'éclairage va rouler avec ça. Et le reste de l'édifice, lui, va connaître une autre réalité. On est encore là dans une expérience personnalisée, immersive, de bureautique ou de
et alors, ils viennent pourquoi ici, en fait? Pour présenter ces nouveautés, pour trouver de nouveaux clients?
Exactement, pour faire connaître leur expertise. Mais ils sont déjà un peu partout dans le monde. Sauf qu'ils ont à développer, avec la connaissance qu'ils ont développée, ils ont à développer les marchés. Alors, c'est un peu ce qu'ils font. Puis le dernier truc, mais il y en a une soixantaine, mais je ne les passe pas tous, là. Il y a Érudit.
Parce que pour l'instant, c'est assez moyen, excuse-moi. Donc, j'aimerais que tu mettes la barre haute. Pour que, voilà, on se dise, waouh, quand même, au Canada, il y a des trucs bien, quoi. Parce que ton pont illuminé, là, c'est moyen. Ton bâtiment connecté, bon, d'accord, OK.
Oh, François, tu tires à balles réelles.
Je plaisante, Bruno, c'est très bien.
Est-ce que j'ai déjà dit qu'il y avait deux des parrains de l'intelligence artificielle générative sont canadiens?
Non.
Est-ce que j'ai dit ça? Oui, oui.
Ouais. C'est vrai?
Oui.
Mais je ne sais pas quoi.
C'est accessoire, parce que celui qui est présent à Vivatech cette année, c'est pas le Canadien. C'est dommage.
Ben, il n'est pas là. Bon.
Mais donc, c'est ça. Alors, je voulais vous parler de Érudit. Érudit qui, eux, se concentrent dans la ressource humaine. Mais là, maintenant, pour faciliter la vie des entreprises, ça peut être des moyennes, ça peut être des grandes entreprises. C'est le marché avec lequel ils travaillent. Et là, ça carbure à l'intelligence artificielle pour gérer des parcours d'employés. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus au Québec, notamment, d'entreprises dans le domaine-là pour... faciliter la gestion de personnel, mais surtout le développement personnel des employés au sein d'organisations. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis bon, ben, ils viennent faire leur tour aussi ici à Vivatech pour présenter leur savoir-faire.
Merci, Bruno.
Alors, désolé de vous avoir déçu.
Bon, mais écoute, ta seule présence nous rassure et nous fait du bien.
Je m'en allais, mais je vais rester encore un peu.
Anthony, alors, évidemment, pour ta chronique Culture Geek, t'as fait ton marché,
ouais.
T'as commencé à faire ton marché, hein, parce que t'es là pendant toute la semaine.
Ouais.
T'as vu des trucs sympas. Tiens, on parlait de bagues tout à l'heure. Ça fait presque un peu, tu sais, repose-bague.
Oui, c'est ça. C'est un truc que tu pourras avoir dans une bijouterie, effectivement.
C'est un peu flippant, mais...
Je vous dis pas, parce qu'Anthony, il a l'air sérieux comme ça. Mais il est un peu facétieux. Tout à l'heure, il est arrivé sur le plateau, il m'a dit « T'as vu ce truc-là »
Il va pas
et
le
vous
dire. Avez,
et vous savez ce qu'il a fait avec la main?
J'essaie d'imaginer, je ne veux pas
je
savoir.
Je ne vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de décorner l'image parfaite de gendre idéal d'Anthony Morel.
Tu parles,
Mais c'était un peu limite.
Je vais pas le refaire.
T'as pas envie?
Non,
bon, pas. Ça va.
J'ose pas.
Mais est-ce que la main est capable de pointer?
tu peux pointer,
okay.
Tu peux tout faire, tu peux okay. faire tous les gestes possibles et imaginables.
Ah oui,
voilà,
okay,
je,
okay.
j'en dis pas plus. Alors en fait, oui, je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle depuis tout à l'heure. C'est une main bionique en fait, ce que je vous ai apporté là. C'est une start-up ukrainienne qui s'appelle Esper Bionics qui présente ça ici. Et donc quand je dis une main bionique, en fait, c'est une prothèse de main hein, qui va servir pour des personnes qui ont été amputées hein, en réalité, mais avec un niveau à la fois de réalisme, de dextérité, parce qu'il faut bien parler de dextérité, à l'intérieur, tu as 6 micromoteurs, tu en as un par doigt, et il y en a même un en plus, qui te permettent d'avoir en fait eh bien, un mouvement individuel de chaque doigt. Non mais c'est extraordinaire. Ça te fait marrer. Enfin, c'est dingue quand même. Attends, là, parce que là, je le pilote, j'explique, hein, je le pilote depuis mon smartphone parce que c'est un modèle de démo. Mais normalement, évidemment, il serait collé à mon bras, à la
main. Il s'en est fallu d'un doigt.
Il s'en est fallu d'un doigt.
Si, non, si mais, je puis me permettre.
C'est un truc de fou parce que en fait, là où ça va très très loin, là, c'est la première version. La version, elle a déjà quelques capteurs, mais dans la version finale qui va sortir l'an prochain, tu auras en fait une détection d'intention. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des capteurs qui sont au contact de la peau, qui vont analyser l'activité musculaire, même quand il te manque une main, si tu as l'intention de faire un geste.
Tu vas avoir des terminaisons.
Signaux électriques.
Des signaux nerveuses. Électriques qui vont être captés par l'un des embouts de la main et qui va en fait comprendre ce que tu veux faire. Et donc, bah, le geste va être traduit par la main bionique. Je veux saisir un verre, je veux prendre un stylo, je veux serrer la main de quelqu'un.
La main va comprendre
exactement.
La finalité du geste que tu essayes de faire.
Et en fait, là où ça devient génial, c'est que l'intelligence artificielle, puisqu'elle est absolument partout ici sur Vivatech, hein, on l'a vu à travers déjà les différentes innovations qu'on a relevées, eh bien, elle va te permettre de fluidifier les mouvements en apprenant de tes habitudes. C'est-à-dire que plus tu répètes un geste, plus il va devenir fluide. Donc en fait, la main va apprendre et évoluer avec toi. Donc c'est vraiment excellent. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est pour les personnes handicapées. Alors, pour l'instant, encore une fois, ça coûte. Alors, c'est une main qui coûte un bras, si tu me permets. Ça coûte quand même 20 000 euros, hein. Une main comme ça.
20 000 euros,
ouais, plus de 20 000
mais
euros.
Est-ce que ça marche déjà ou c'est du prototype?
Non, ça fonctionne déjà, mais pour l'instant, tu dois avoir une centaine de personnes dans le monde qui sont équipées, en fait.
Bah, ce qui est pas mal, quand même.
Ce qui est pas mal, mais ça commence. En fait, ils veulent avoir un développement plus global. Et donc, l'idée, ça va être aussi de miniaturiser, de transformer la main. Là, elle est en plastique. La prochaine version sera en aluminium. Et il y aura même du silicone, donc pour reproduire le toucher, tu vois, la sensation de
la peau
aussi. Donc ça, ça va aussi être une vraie avancée. Et puis, l'idée, ce serait de démocratiser le truc et de faire baisser le prix aussi à un moment, parce que là, personne ne peut se lâcher, hein, très clairement.
Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que, en fait, l'électronique et l'IA arrivent à détecter l'intention du membre qui manque pour l'interpréter, c'est ça qui est fou, en fait.
Mais c'est génial, parce que ça fait des années qu'on cherche justement les prothèses de ce type-là à compenser, à s'appuyer sur le corps, en fait, sur ce qui reste d'intention dans le corps. C'est quand même le prototype que je vois
le plus abouti,
ouais. Le plus même fini au niveau du design.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on avait vraiment des trucs qui étaient grossiers jusqu'à présent, parce que ça privilégiait vraiment la technologie embarquée et on n'arrivait pas à miniaturiser comme ça. Là, c'est génial.
Mais moi, ce qui m'impressionne de ça, c'est la capacité d'apprendre. Et c'est là où moi, je trouve qu'il y a de l'avancement. Mmh. Parce qu'une prothèse pour une prothèse, j'en avais déjà vu dans les laboratoires qui arrivent à faire ça, à apprendre le contact électrique. Mais de voir que la prothèse va apprendre. Et c'est ce que c'est, hein, c'est l'intelligence artificielle qui apprend. Ça, c'est génial parce qu'elle va connaître le geste de la personne et l'intensité à laquelle elle doit prendre tel objet.
Ouais.
Parce que le cerveau va identifier que c'est une tasse ou que c'est une salière ou que c'est un verre de vin. Et donc, la pression ne sera pas du tout la même.
C'est le plus difficile à faire, la pression. C'est le fameux test de l'œuf, quoi.
Ouais, exactement.
Le test de l'œuf. Si la main est capable ou le robot est capable de prendre l'œuf sans le casser, c'est qu'on est arrivé à un niveau d'intelligence suffisamment avancé pour avoir la notion de la résistance.
C'est comme toi et ton micro.
C'est ça,
voilà.
Exactement.
Alors, je ne dis pas que c'est parfait hein, pour l'instant.
Hein. Non,
pour
avoir
un peu testé
comme ça, tu vois, ça reste encore, il y a des petites imperfections, mais je trouve que la promesse technologique est quand même hyper intéressante. Et alors, il y a une autre start-up d'ailleurs sur le salon qui s'appelle Revival Bionics aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et eux, ils présentent un pied bionique. Et là, c'est une personne qui était elle-même paralysée, qui s'est dit on n'est jamais mieux servi par soi-même. Aujourd'hui, les prothèses de pied, c'est pas extraordinaire. En gros, c'est un pied sur ressort. Et donc, ils ont créé un truc absolument dingue avec un moteur, un talon d'Achille artificiel et en fait, couplé à des algorithmes qui vont analyser en fonction de ta morphologie, de ton poids. va fluidifier en fait le mouvement de la marche. Enfin, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire dans le domaine. Enfin, c'est l'homme qui valait 3 milliards, quoi. C'est quasiment ça, en fait, si tu veux. C'est Steve Austin. On en rêvait. Exactement, exactement. Ouais. Mais qui est en train de devenir réalité. Et alors, si t'imagines, tu peux connecter ça à une prothèse Neuralink à terme ou ce genre de choses. Enfin, on peut imaginer aussi des conjugaisons technologiques
évidemment
comme ça qui pourront être extraordinaires. Hein.
C'est vrai que là, quand on commence à imaginer le futur, ça donne le tournis. Tu sais qu'on est diffusé en audio, mais on est diffusé aussi en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Tech & Co. Tu sais qu'en général, il faut un pouce bleu. Tu peux faire le pouce bleu avec ta montre ou pas?
Alors attends, je vais essayer attends. Parce que...
Ça serait bien, non?
C'est pas mal.
Vas-y.
C'est mieux que le reste.
Allez, pouce bleu.
Attends, j'essaie.
Pour de quoi je me mêle. Bon, il faut pas être pressé.
Il va nous refaire le logo Facebook.
Non, mais après, je t'ai surpris un peu, hein, quand même. Pour l'instant, on n'y arrive pas, les amis. Ah, il y a un petit le pouce se lève un peu, mais il est un peu, j'avais envie de dire, il est un peu poussif.
C'est pas grammatique.
Mais ça, c'est pas forcément une très bonne blague.
Il a un peu de mal avec le pouce. Je peux te faire un autre doigt, mais je suis pas sûr que tu vas apprécier.
Écoute, tu sais qu'on est irréprochable.
Bah, évidemment.
Donc, on peut pas se permettre de faire ça.
Évidemment.
Anthony, parle-nous de ce partenariat entre Renault et WeSings, qui est un partenariat surprenant, hein. Renault, évidemment, constructeur automobile. WeSings, acteur de e-santé. Ben, ils se sont associés.
Absolument. Dans le cadre, en fait, d'un partenariat plus global avec des industriels qui s'appellent Software Republic. Et donc, ils présentent ici à VivaTech un truc hyper intéressant. C'est, alors, j'allais dire un concept, mais ce n'est pas un concept parce que ça va vraiment sortir là, dans les mois qui viennent d'un cabinet médical mobile. On peut le présenter comme ça, c'est-à-dire... Une grosse fourgonnette Renault, hein, pour le coup, donc avec un gros coffre à l'arrière, modulable. Et parmi ces modules, eh bien, tu vas pouvoir intégrer un cabinet médical dont le but va être de circuler de ville en ville ou de village en village, parce que l'idée, c'est évidemment de répondre à la question des déserts médicaux. Et donc, comme aujourd'hui, tu sais, tu as les fourgonnettes de pain ou de fruits et légumes qui viennent sur la place du village à tel moment de la journée, eh bien, demain, tu auras cette camionnette qui arrivera avec à l'intérieur un chauffeur, un aide-soignant ou une aide-soignante.
C'est comme une cabine de téléconsultation.
C'est exactement ça.
Il y a parfois dans certains déserts médicaux.
C'est ça. Sauf que là, c'est mobile, donc ça vient à toi.
C'est ambulant.
Ce qui est quand même pas mal. Et donc à l'intérieur, c'est là que le partenariat est intéressant. Tu as tout le matériel WeSings. Hein. On en a beaucoup parlé, y compris au CES. Ils avaient présenté le BIMO, leur petit appareil qui permet de faire... Alors tu peux faire plein de mesures. Tu as la température, tu as le stéthoscope embarqué. Tu peux faire... Tu as leur balance connectée aussi qui fait à la fois le poids, mais qui va aussi analyser des signes avant-coureurs de diabète. Enfin, dans les pieds, enfin, il y a énormément de matériel comme ça. Tu es en téléconsultation avec un médecin, tu discutes avec lui, tu peux venir pour une consultation, pour faire de la prévention. Enfin, voilà, c'est comme tu le disais, c'est le principe des cabines connectées, sauf que là, c'est ambulant et c'est assez malin, je dois dire. Et c'est les collectivités locales, ça va être commercialisé en fait auprès des collectivités locales directement.
Ça a l'air d'intéresser Mélinda et Bruno.
Moi, je trouve ça génial parce qu'on sait que justement, le problème, c'est le médecin et combien de kilomètres il faut faire pour aller voir un médecin. Et je trouve surtout qu'en effet, on parle tout le temps de WeSings, notamment au CES, où ils ont toujours une annonce forte. Et je trouve ça bien d'avoir de l'applicatif, en fait, de se dire que tout ce qu'ils font, parce qu'ils ont un potentiel dans leurs appareils, dans la balance, on se souvient du body scan qui est capable de data extrêmement avancée. Et je trouve ça génial de le mettre vraiment en application, en pratique, avec un concept. Oui, on n'arrête pas de voir les boulangers qui vont directement aux gens, la poste aussi qui maintenant va prendre le courrier. Je trouve ça vachement bien qu'on arrive enfin à le faire avec de la santé. Ce sera des examens de base, entre guillemets, mais ce sera déjà ça, quoi.
Et puis, c'est une belle visibilité pour leur savoir-faire aussi. Moi, je trouve ça intéressant parce que, et je le disais, tous les ans au CES, puis même entre les CES, on nous présente des nouveaux produits de leur cru. Et puis, bon, c'est là, ça vit tout seul. Mais là, de voir un endroit où ce serait possible et que les gens puissent avoir un contact dans les différentes communautés et de voir qu'il y a de ces appareils-là qui pourraient devenir propriétaires et les utiliser au quotidien dans certaines situations. Moi, je trouve que c'est très fin stratégiquement.
Après, il faudra voir aussi comment les professionnels prennent le truc. Parce
bien
que
sûr.
Tu sais que sur les cabines de santé, par exemple, il y a un peu de polémique. Il y a certains médecins, je ne sais plus si c'est l'ordre des médecins, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, qui disent que c'est un peu de la santé au rabais. Tu sais qu'en gros, c'est trouver une solution un peu un pis-aller parce que effectivement il y a le problème des déserts médicaux. Enfin, c'est quand même une solution, mine de rien, quoi.
À défaut de ne pas avoir de soins, je pense qu'il y a des communautés qui vont être contentes.
Évidemment, ça ne remplacera jamais, je pense, une vraie consultation physique avec un médecin. Mais malgré tout, c'est mieux que rien.
Exactement.
C'est mieux que rien.
Oui, puis tu peux coupler ça aussi, t'imagines, parce que là, on est encore au début, mais si tu te projettes dans un monde où, je fais un peu le lien, mais la semaine dernière, il y a Google qui faisait ses annonces, ils ont remontré Starline, tu sais, leur projet d'hologramme, enfin, de discussion par hologramme interposé. Tu pourras avoir des téléconsultations hyper poussées, en fait, à terme, où tu auras l'impression vraiment d'être en face du médecin, il sera quasiment en face de toi comme un hologramme ou en trois dimensions. Tu auras les outils pour faire l'auscultation, parce que c'est toi, en fait, qui fais les gestes. Mais le médecin, tu mets le stéthoscope sur tes poumons, par exemple. Eh bien, le médecin va entendre à distance, en fait, comme s'il était à côté de toi. Donc, en réalité, OK, il ne sera pas à 10 cm de toi, mais il aura quasiment tout pareil, quoi. C'est ça, la réalité.
Top. Et puis, c'est 100% français. Mais ça, franchement,
ouais, beaucoup.
Renault, WeSings, c'est le top.
Enfin,
franchement. Et là, c'est avec ces exemples-là, on parle beaucoup de souveraineté technologique, etc. Ne te vexe pas, hein, Bruno, c'est pas canadien, je suis désolé. Mais voilà. Cocorico, quoi.
Exactement.
Franchement, ça fait plaisir.
Ouais, je suis
vraiment, sincèrement.
C'est aussi à ça que ça sert, hein, VivaTech. C'est aussi une vitrine. Il y a beaucoup, tu as raison, hein, Bruno, de le souligner. Il y a beaucoup de pays étrangers qui viennent présenter leurs innovations. Mais c'est aussi une manière
bien
pour
sûr.
La France de montrer ses muscles et de rayonner à l'international aussi, bien sûr.
Mais j'ai même envie de te dire, si un tel partenariat peut faire des émules, parce qu'on sait qu'on a un savoir-faire santé français qui est fort, si WeSings est capable de fédérer autour d'autres, parce qu'on a des fabricants de cabines, justement, de téléconsultations, de savoir-faire, s'ils arrivent à fédérer quelque chose autour de ça, de ce projet, moi, je trouve ça, franchement, ce serait génial.
Mélinda.
Oui ?
Tu sais que Bruno est venu 48 heures en France.
Oui.
48 heures à peine.
Il faut lui faire à manger, c'est ça que tu vas me dire ?
Un peu comme une rockstar. Et donc, j'aimerais que, pendant ces 48 heures, on lui donne le meilleur de la France. D'accord ?
Évidemment.
Logique. Et le meilleur de la France, c'est le vin. On est d'accord ?
Oui.
Et je pense que Bruno est venu aussi pour ça. Pour déguster de bons vins entre deux visites de stand. Et j'aimerais...
Mais encore
entre deux visites de stand, pas entre deux jours de VivaTech. C'est entre deux visites de stand.
Jusqu'où je vais aller, là,
non, mais
là
Vas-y, continue, François.
Je pars dans des trucs incroyables. Tout ça pour nous dire que, vous allez voir, hein, on va tomber de haut quand même. Tu as vu une espèce de sommelier bizarre.
Du futur. Alors, imaginez, je ne sais pas, vous regardez Harry Potter. Et vous êtes, vous savez, dans ce grand escalier avec tous ces tableaux qui s'animent au mur. Eh bien, imaginez, votre sommelier, c'est un des tableaux. Et, tendance un peu Van Gogh, on va pas se mentir, ultra coloré. Mais voilà, c'est chez Moët & Cie. Ils ont mis au point un sommelier à l'IA, parce que c'est le mot d'ordre ici. Si vous ne faites pas un truc à l'IA, vous avez un peu raté votre VivaTech, on va pas se mentir. Mais là où ils ont été malins, Moët & Cie, donc tout ce qui est vin, champagne et tout, c'est d'avoir un sommelier capable de vous trouver le vin qui va avec votre mets, on va dire. Donc, vous allez pouvoir lui demander, par exemple, j'ai fait un risotto, je sais pas, un bœuf bourguignon, avec quoi je l'accompagne. L'IA du tableau, qui est un tableau virtuel, a été nourri de la cave de Moët & Cie, évidemment, mais aussi d'autres informations, parce que dedans, c'est GPT-4. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Ah ouais.
Dites donc, Et donc, il va apprendre au fur et à mesure de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, et vous recommander un vin. Pourquoi GPT est là ? Alors, vous pourriez vous dire, Moët & Cie, ils ont une cave qui est suffisante pour tout. Savoir si vous allez à un mariage, vous êtes invité, qu'est-ce que vous offrez comme vin ? Voilà, c'est les démos qu'on peut faire avec eux. Eh bien, en fait, tout bêtement, parce qu'ils ont aussi conscience des limites de leur catalogue, et ils se sont dit, on n'a pas tout chez nous, on n'est pas coupé à d'autres suggestions, donc GPT-4 va nous aider à aller chercher des recommandations ailleurs, de plats étrangers aussi, pas forcément que la, même si elle est excellente, la cuisine française. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce prototype qui est capable de... Pour le moment, c'est un prototype. L'idée, évidemment, est de le mettre en boutique à plus long terme, ou, je pense qu'ils ne le disent pas ouvertement, mais en application smartphone, chez vous, vous puissiez évidemment savoir quand vous allez aller chez Moët, savoir ce que vous prenez. Mais je trouve que l'idée est rigolote, c'est une utilisation de l'IA. En plus, c'est assez joli visuellement.
Mais ils vont le vendre, ça ?
Non, ça va rester dans leur réseau.
Ça va rester comme ça.
Je te dis, en application éventuellement, mais c'est tout.
Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un usage de l'intelligence artificielle générative qui a un sens. Parce que, autant, tu vas dans un bon resto, évidemment, le sommelier sera toujours au top. T'apportera la chaleur, la passion, voilà, tout ça. Mais t'es chez toi... T'as quelques bouteilles de vin, tu te dis, bah tiens, je vais manger chez des amis qui ont fait, je sais pas quoi, un couscous ou une paella, qu'est-ce qu'il me faut comme vin ? Ben là, l'IA générative peut à mon avis, peut apporter vraiment quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno. Ouais,
mais je me demande, parce que justement, tu as dit le mot magique, hein, ChatGPT.
Ouais.
Je me demande si on passe directement à ChatGPT sans l'interface développée, si on peut avoir accès à la même information.
Alors, ils sont assez clairs là-dessus. Ouais. Évidemment, le but premier, c'est de parler de leurs produits. Okay. Donc, la base est nourrie de leurs produits. Mais l'intérêt de la surcouche IA générative, vraiment, c'est aussi de s'adapter. C'est-à-dire que si c'est toi qui l'utilises et qu'au fur et à mesure, il comprend que tu aimes, tu es plutôt Bordeaux que vin de Loire ou des choses comme ça, eh ben, il va plutôt te recommander des choses qui vont te ressembler. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où, oui, en effet, l'IA générative qui apprend de nos habitudes est intéressante.
C'est un autre cas où l'IA apprend. Un peu comme la main tout à l'heure, ben là
c'est pas mettre du ChatGPT pour mettre du ChatGPT. Là, on a suffisamment de quoi faire en gens qui intègrent du ChatGPT sans forcément que ce soit intéressant. Là, je trouve ça bien si vraiment c'est capable de s'adapter à ce que j'aime. Et notamment, ils disaient, eux, ils n'ont pas de Bordeaux.
Mais
donc, on ne va pas faire des propositions sans vin de Bordeaux.
Je crois que ça peut avoir un potentiel.
Ah oui, bien sûr. Non, je trouve que c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que... Et c'est là qu'on voit qu'on est en France aussi. Quoi. C'est la tech appliquée à la bonne chère.
Bien sûr.
Et donc, tu as plein de
d'innovations. Il y a nos traditions, quoi, finalement.
Mais ça, il y a seulement en France qu'on peut voir ça.
Ben, c'est ça.
Eh
ben,
on ne verrait pas ça au CES, à moins que les Français viennent le présenter là-bas.
Alors, c'est ça. Et alors,
parce que nous, on y pense tout de suite.
Tu as un autre stand. Alors, tu as le stand de la Nouvelle-Aquitaine, alors qui est très bien achalandé, justement, au niveau dégustation. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, ils ont pensé à tous les gars.
Anthony a testé, visiblement. Bah,
évidemment, attends, je suis allé voir mes amis de la Nouvelle-Aquitaine.
Il est arrivé avec son bras milieu de vodka.
Vous n'avez pas un verre, les amis?
C'est pour tester la main.
Et alors attends, t'as une boîte française sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine. Tu sais pas qu'on parlait de bonne chère, ils présentent des huîtres et des moules connectées.
Non.
Ouais, mais est-ce que c'est ce qu'on avait vu au CES?
Ils étaient au CES.
Excuse-moi, je fais comme ça là.
Non,
parce que
alors
là,
attends.
C'est pas possible.
C'est parce que tu sais pas ce que c'est.
Ça va trop loin.
Non, non, non. Mais je sais.
L'huître et la moule connectée, non.
Non, mais parce que non, mais c'est pas pour les manger. C'est pas pour les manger. Ça s'appelle Molluscan et c'est génial en fait parce que le truc c'est qu'ils mettent des capteurs électroniques dans des huîtres et dans des moules que tu vas mettre dans un parc d'huîtres ou dans un parc de moules, okay. Et ça va analyser la qualité de l'eau pour détecter...
Donc c'est pour l'élevage.
Exactement.
Okay. Et qui est un vrai problème, hein. On voit qu'il y a eu des contaminations très graves.
Exactement ça. Donc
mois.
En fait, il y a un énorme enjeu, si tu veux, y compris de santé publique. Donc très... au-delà du côté...
Mais pourquoi la mettre dans l'huître? Il pourrait la mettre dans le bassin.
Eh bien, écoute, faudra leur demander. C'est une bonne question.
Ah, peut-être que si c'est dans l'huître...
C'est pour pas faire peur aux autres huîtres.
Parce que l'huître est sensible, on le sait.
Mon Dieu.
Voilà. Donc, Molluscan.
Et voilà. Bon, intéressant,
c'est
ça aussi.
Non, mais bon, ça m'a fait penser immédiatement parce qu'on parlait de vin, donc je pensais à des associations, c'est
non,
tout.
Mais voilà. Non, mais c'est vrai. C'est
savoir,
vrai.
Savoir quoi boire avec les huîtres.
Exactement.
C'est la vraie question qu'on pose.
Il y a du vin au Canada ou pas?
Oui.
Bah, tu dis ça, mais bon, on sait très bien que c'est pas terrible, non?
Bon, ben la prochaine fois que je viens, j'amènerai du vin. Notamment, le vin qui...
Non, c'est pas la peine.
Non.
François.
Je vois l'ouverture, merci. Donc, il y en a et il est bon, je vous invite à l'essayer.
C'est vrai?
Oui, oui, oui.
Sur la côte ouest, non?
Celui qui est plus reconnu, c'est dans le vin du Niagara. C'est le vin blanc.
Ah, ouais, OK.
C'est de l'eau.
Pardon?
C'est de l'eau,
non,
les vins du Niagara. Non,
non, il ne faut pas confondre avec les chutes.
Ah,
pas essayer de boire les chutes.
Il y a un mec qui a mis une bouteille sous les chutes.
Là, tu as absolument besoin d'un bras puissant, très puissant.
Ah là là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a pas mal de trucs encore. Vous savez quoi? On va faire une petite pause. Voilà. Il faut qu'on se remette de nos émotions, quand même. Je sais que Bruno aimerait bien aller sur le stand Nouvelle-Aquitaine pour faire un break, pour manger des huîtres connectées. Non, mais on revient dans un instant pour la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être là. A tout de suite depuis VivaTech.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle, deuxième partie. Merci d'être là depuis VivaTech, 8e édition, 2800 exposants pour cette... ce numéro de 2024 de VivaTech. Alors, pour être tout à fait transparent, le salon vient d'ouvrir. Hein, on a enregistré ce De quoi je me mêle au tout début de ce salon. On voit déjà énormément de monde. Et bien sûr, on vous commente avec Mélinda Davansoulas, Bruno Guguet-Minetti et Anthony Morel. Quelques-uns des coups de cœur de l'équipe. C'est ça qui est cool.
Ouais.
Anthony, on repart avec toi parce qu'on évoquait tout à l'heure la e-santé. Il y a pas mal de choses encore qu'on pourrait... découvrir avec toi, et notamment un robot dermato.
Absolument. Moi, c'est une boîte que je suis depuis quelques mois qui était aussi présente d'ailleurs au CES de Las Vegas et à laquelle je promets un très gros potentiel. Il s'appelle Square Mind. Je vois Bruno qui acquiesce parce qu'il doit les connaître aussi. Ouais. Melinda, tu as dû les voir aussi.
Tu nous en avais parlé.
Ouais, c'est une boîte dingue. Ils ont mis au point un robot dermato. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, tu vas chez le dermato, tu sais, pour faire vérifier tes grains de beauté. Bon, c'est un grand classique. Hein. Bon, le dermato, il fait son boulot. Alors, de manière plus ou moins artisanale, il a un dermatoscope, donc une grosse loupe. Des fois, il le fait en 10 secondes. Des fois, il a un petit peu plus de temps. Mais bon, si tu retournes l'année d'après, il y a quand même des fortes chances qu'il ait un peu oublié à quoi ressemblait ta peau l'année d'avant. Ben, c'est normal. Et là, en fait, tu arrives, tu as ce bras robotique qui ressemble un peu à un serpent avec une caméra qui va tourner tout autour de toi. Ça va prendre 3 minutes chrono. Il va scruter le moindre millimètre carré.
Et il scanne ton corps ?
Il scanne ton corps.
Il scanne ton épiderme.
Exactement. Il scanne ton épiderme. Il va analyser précisément chaque grain de beauté en disant, ben voilà, là, il y a potentiellement un problème. Donc, il va alerter le dermato. Et ce qui est formidable, c'est que d'une année sur l'autre, il va se souvenir de toi. Donc si tu reviens l'année d'après, il va dire « Ah, ce grain de beauté-là, il a évolué de cette manière-là. » Ce qu'un dermato traditionnel aura bien du mal à voir. Donc là, pour le coup, sur les dépistages de cancer de la peau massif, on sait qu'il faut y aller régulièrement, qu'on n'y va pas suffisamment souvent, il y a un énorme potentiel. Et là, pour le coup, c'est potentiellement des vies qui peuvent être sauvées. Hein.
Mais là, encore une fois, exemple parfait de ce qu'a apporté l'IA.
Exactement.
Et ça ne remplacera pas un dermato.
Non.
Le dermato sera toujours là, mais c'est un outil supplémentaire qui va dire, bah, tiens, on s'est vu il y a un an. Regardez, je vais rentrer votre scan de peau. Ah, vous avez ce petit grain de beauté qui a grandi de 2 mm. C'est pas grave, tout va bien. Ah, celui-ci a grandi un petit peu plus. Vous savez quoi, on va l'enlever. Et ça, enfin, moi, j'ai eu, alors, il n'y a pas longtemps, un rendez-vous chez le dermato. Et moi, il le faisait à l'ancienne. Il mesurait, pour tout vous dire, des grains de beauté avec un petit centimètre, quoi.
Ah ouais ?
Oui, oui, oui. Il prend des notes. Et là, vous imaginez un peu ce truc-là,
ça
maintenant.
Change tout, ça change
c'est
tout.
C'est incroyable.
Le gain de temps. Et le génie de cette entreprise-là, c'est chouette de la revoir arriver ici, c'est que dès le départ, j'ai fait une entrevue avec eux en janvier, eux travaillent avec les dermatos. Et contrairement à une autre boîte qui pourrait dire, ben nous, on arrive, oui. Ça va être le...
On va tout apprendre à tout le monde.
Exactement. Non. Et ça, c'est tellement habile parce
que... C'est-à-dire qu'ils répondent à un vrai besoin des dermatos.
Oui, et ça devient un adjoint. Et donc, avec encore un bel exemple d'intelligence artificielle qui va servir à faire du suivi, qui va apprendre, c'est révolutionnaire, ça. Un peu comme maintenant, les radiologues qui utilisent l'analyse faite par intelligence artificielle pour les assister et les aider. Alors, c'est là où on trouve une valeur ajoutée à l'intelligence artificielle dans le contexte de la santé. C'est la possibilité, justement, de seconder le spécialiste.
C'est ça. Mais c'est vraiment l'utilisation de l'IA en gain de temps et d'expérience. Parce que, comme le dit Anthony, d'une année sur l'autre, ça peut évoluer. Même si votre dermato vous connaît, même si votre généraliste vous connaît, il suit votre dossier. Voilà, au millimètre près, il ne se souvient pas. Je trouve que on dit toujours l'IA va remplacer absolument tout et tout le monde. Ce n'est pas vrai. Mais l'IA, quand elle est un compagnon, c'est un gain de temps dans l'expertise qui est dingue, quoi.
Et puis l'efficacité permettra d'éviter des maladies, des cancers, des choses comme ça.
D'anticiper.
C'est ça.
Et pour aller un peu plus loin que toi, moi je dirais que ce que je voudrais, c'est que demain, et même déjà aujourd'hui, alors peut-être pas avec cet appareil-là, mais je puisse savoir en tant que patient, quand je prends un rendez-vous chez Doctolib, si le médecin chez lequel je vais est assisté par l'intelligence artificielle.
Ouais, bien sûr.
Parce que franchement, moi, ça me sécuriserait vachement.
Évidemment.
Je vais te dire de savoir qu'il y a ce filet de sécurité supplémentaire, quitte à même payer un peu plus. Moi, je serais OK. Hein. Je te dis, hein, payer 5 euros de plus à la consultation.
Mais ça va devenir un avantage
avoir l'IA,
pour le dermato.
Bien sûr.
Ça va être stratégique, ça va être un différentiel.
Il y a ceux qui vont prendre le tournant et ceux qui ne vont pas le prendre.
Ouais.
Et automatiquement, ceux qui ne le prennent pas, ça va être compliqué.
Exactement.
C'est obligé. Enfin, franchement.
Je pense qu'il y a deux attitudes qui sont intéressantes là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des corps de métier auxquels on accorde l'utilisation de l'IA comme un bénéfice. Et je pense que la santé en fait partie. Il y a d'autres corps de métier ou d'autres experts, tu leur demandes, il va dire, moi je travaille avec l'IA, tu vas flipper un coup en te disant, mais en fait, à quoi ça sert que je le paye ? Pourquoi je le fais intervenir ? Je pense que la santé est dans les esprits aujourd'hui un des domaines où l'apport de l'intelligence artificielle est le mieux accepté. Et franchement, moi je suis d'accord avec Anthony, si les 5 euros de plus, c'est parce que mon médecin est équipé technologiquement pour faire un meilleur diagnostic, moi j'adhère tout de suite.
Mélinda, dans un instant, ça va être un petit peu plus léger, mais j'adore. Imaginez un baby-foot avec de l'IA et connecté. Ça, c'est dans une minute. Mais auparavant, j'aimerais que tu nous présentes cette petite carte de dingue que tu as en main.
Ouais.
Moi, c'est un truc qui me fait, mais je trouve ça vertigineux. Ça, c'est une carte de stockage, d'accord, les amis. Là-dessus, on stocke des données. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une clé USB. C'est de l'ADN qui va stocker des données numériques.
Ouais.
C'est un truc incroyable.
Ouais, c'est aussi un de mes coups de cœur. C'est une boîte française qui s'appelle BioMemory. Et ils sont parmi les pionniers, parce qu'il y a aussi des acteurs américains sur ce secteur-là, dans le stockage par ADN. C'est une technologie qui a été imaginé il y a longtemps par Richard Feynman, dans les fins des années 50, un grand physicien américain. On n'avait pas encore les moyens technologiques de le faire. Aujourd'hui, on peut le faire. Et en fait, ce que je vous ai apporté là, alors je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent, tu disais une carte, ça ressemble à une carte de crédit, un petit peu plus épaisse, dans laquelle on peut stocker des données. Mais ce n'est même pas cette carte. La carte, elle est là pour la présentation. Ce qui est intéressant, c'est le petit point noir que vous voyez au milieu. C'est une tête d'épingle, hein, en gros, c'est ça. Et bien sûr,
un peu plus gros.
Un peu plus gros, voilà. Ouais, un gros point, quoi, voilà. Eh bien, là-dessus, tu vas pouvoir stocker l'équivalent de 1000 ordinateurs, voilà, en termes de données stockées. Voilà. C'est vertigineux. C'est-à-dire que là, plutôt que de stocker, comme d'habitude, sous forme de 0 et de 1, là, tu as de l'ADN synthétique, ce sont des brins d'ADN synthétique. L'ADN est composé de molécules avec 4 lettres, et les 0 et les 1 sont remplacés par ces 4 lettres. Et donc, tu vas pouvoir stocker énormément de données dans ce tout petit écran-là. Et c'est-à-dire que tu peux imaginer que les data centers de demain soient remplacés par des choses qui sont beaucoup plus efficientes d'un point de vue de l'occupation de l'espace, qui vont en plus consommer beaucoup moins d'énergie, parce que ça, tu peux le stocker à température ambiante, tu n'as même pas besoin de le refroidir.
Non, mais c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un data center qui fasse quoi en taille ?
Tu vas gagner... Alors, il me disait... De mémoire, les ordres de grandeur,
dans c'était... Dans ce petit point, tu as 1000 ordinateurs.
Oui, c'est ça. En ordre de grandeur, je crois que c'était 100 à 1000 fois plus petit ou quelque chose comme ça par rapport à ce qui existe aujourd'hui, sachant qu'il y a un vrai sujet de la place prise par les data centers aujourd'hui. Hein.
Et la consommation.
Et la consommation d'énergie, évidemment.
La consommation,
évidemment.
Surtout.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est assez dingue. On se dit, si on arrive à faire ça, pourquoi ce n'est pas encore généralisé ? C'est assez...
Parce que ça coûte encore très cher.
Voilà.
Le problème, c'est qu'on est encore en phase de... Alors, ils ont bien avancé, hein, mais aujourd'hui, le coût de stockage... Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais pour stocker 1 méga, ça doit te coûter 100 ou 1000 euros, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est pas encore complètement au point. C'est en cours de développement.
Ou est-ce que c'est...
C'est
très cher.
C'est parce que c'est très cher aujourd'hui.
C'est au point.
C'est au point, mais il faut produire l'ADN synthétique.
Ouais, voilà.
Il y a tout un processus ensuite pour le transformer. Enfin, le processus chimique qui va en fait jusqu'au stockage de données sur ce petit objet que vous apportez, il est quand même coûteux pour l'instant.
Mais là, par exemple, tu te branches comment sur via un port USB normal ou chose ?
Non, là c'est encore autre chose. Encore une fois, ils l'ont.
Là, on est vraiment dans le futur, les amis.
Là, c'est
Star Trek.
Moi,
Anthony Morel a le truc de Star Trek.
J'ai une question, c'est en fait, on peut stocker n'importe quel type de données dessus ?
Oui, ouais, absolument.
C'est-à-dire des données lambda, vidéo,
audio
tout.
Absolument tout. Ouais, c'est
parce
ça.
Que,
des
fait,
données numériques, n'importe
données
quelle
numériques,
données numériques.
Lesquelles.
En fait, c'est tellement beau qu'on se demande où est le piège. Il est dans la lecture écriture. Non, mais un truc tout bête, mais il y a aussi, c'est que souvent, tous les espaces de stockage, c'est comment tu récupères tes données pour les lire. Si tu peux stocker beaucoup, mais que derrière la lecture, c'est
alors,
compliqué, c'est lent.
Je crois que aujourd'hui, c'est encore lent, mais là, c'est pareil. C'est en cours de développement, ça va s'améliorer.
Mais c'est ça qui est dingue, le jour où on arrive à ça, à avoir un truc qui est instantané.
Ça me fait penser exactement à l'électricité dans le domaine de l'automobile dans les années 70, où il commençait à y avoir des initiatives, mais ça coûtait la peau des fesses. Donc, et il y avait un lobby des pétrolières qui faisait en sorte
bien
que ça coûtait très cher. Alors, imagine toute l'industrie du stockage à l'heure actuelle, quand ils sont en train de voir ça.
Les semi-conducteurs, ils doivent commencer à transpirer parce que, alors, tu le disais, c'est le début. Ils ont quelques années de tranquillité, mais peut-être que dans 20 ans, on aura tout ça dans la poche.
Bien sûr.
Ça me fait penser, c'est dingue, ça me fait penser au progrès technologique et à la miniaturisation. Rappelle-toi les ordinateurs dans les années 60. C'était des salles immenses avec des grosses machines et tout. Et aujourd'hui, dans un PC comme je l'ai sur le plateau, on a 1000 fois la capacité de ces trucs qui faisaient des salles entières. Et c'est un peu ça.
Ou la puissance de ton smartphone qui est sais plus combien de fois plus puissante que l'ordinateur qui a servi à envoyer l'homme sur la Lune. Tu vois, c'est vrai qu'il y a un potentiel qui est incroyable. Excuse-moi.
Et c'est juste normal quand on regarde l'évolution des outils de stockage. Pense aux immenses disquettes qu'on avait au départ de l'ordinateur personnel. Je ne pense même pas des salles de serveurs qui étaient grands comme Vivatech pour faire partir la première fusée. On se retrouve avec ça. C'est juste normal qu'on se retrouve à ça. mais il va falloir qu'ils arrivent à trouver les capitaux pour développer
mais
ça.
Mais t'imagines si demain Google, Amazon s'emparent de ces technologies.
Ouais. Aïe, aïe, aïe.
Ah ben c'est clair.
Ça va être incroyable.
C'est un enjeu énorme parce que l'enjeu énergétique de la consommation des serveurs aujourd'hui, sachant que, alors là encore, ça nous ramène au sujet de l'intelligence artificielle, on sait qu'il y a une consommation de données qui est exponentielle, les moteurs, les LLM, c'est l'IA générative en général, que ce soit pour entraîner les modèles ou ensuite la consommation, hein. Il y a des chiffres édifiants qui sont sortis. Il y a des, le fait de générer une image sur DALL-E, je crois que c'est l'équivalent de recharger ton téléphone portable, en gros, juste pour générer une image. Ah, t'avais le patron d'ARM qui a été interviewé par le Wall Street Journal il y a quelques semaines, qui disait que dans quelques années, la consommation totale de l'intelligence artificielle dans le monde, ça, ce sera à peu près 25% de la consommation électrique américaine aujourd'hui.
Wow.
Donc 25% de la consommation. Quand tu vois s'ils consomment aux États-Unis.
C'est pas la plus petite au
monde. Oui, c'est pas la plus petite au monde, tu vois. Non, mais c'est te dire. Donc il y a un énorme enjeu en réalité. Et des solutions comme ça, bah, ça va permettre d'y répondre en fait.
Ouais. Format carte bleue quand même. Il faut le dire qu'à la place de 3 cartes bleues dans son porte-monnaie, on aura un data center. Moi je trouve ça pas mal.
Ça c'est la classe quand même. T'sais... Attends, excuse-moi, je sors de ma poche
mon data center.
Tiens, il est là, ça me fait plaisir.
Et tu sais, quand on parle dans l'informatique de game changer, ça c'est,
ça, c'est énorme.
Et
c'est
je l'ai revu sur votre plateau.
Ouais.
Merci beaucoup.
Mais c'est Anthony. Anthony est un game changer à lui tout seul.
Oh.
Tu l'as remarqué. Tu
juste un découvreur. Mais, mais ça va leur faire plaisir, en tout cas, Biomemory. Ah.
Bon, un game changer du côté du baby-foot, Mélinda.
J'aime bien. Alors, c'est vraiment deux salles, deux ambiances.
Mais moi, c'est ça que j'adore.
Mais tu me demandes, c'est vous. Parce que Anthony, il est hyper sérieux, santé.
Ouais,
et tout.
Bien sûr.
Moi, je vais pister les choses qui. Je vais pas dire qu'ils ne servent à rien parce que ce serait pas très sympa. Mais. Qui amuse.
Non mais attends, voilà, le baby-foot, c'est génial.
Je n'ai pas trouvé de flipper pour toi cette fois, donc j'ai trouvé un baby-foot à l'IA.
Il n'y a qu'au CES que je trouve des flippers.
Qu'est-ce qu'il y a de l'IA dans un baby-foot?
Alors, si tu y joues, ça ne te sert à rien. On va dire, c'est un baby-foot comme un autre. Okay. Mais, non, là, c'était en démonstration sur un baby-foot, mais on voit en fait la portée de l'IA qui sont en train d'entraîner. En gros, vous avez des caméras au-dessus du baby-foot, vous êtes en train de jouer. Et les capteurs, je pense qu'il y en a dans les poignets, mais ils l'ont pas dit. Et en fait, ça va analyser toutes les données du match que vous êtes en train de faire. Donc, c'est capable de repérer les mouvements. Alors, évidemment, les joueurs, c'est un peu plus statique que sur un vrai terrain de foot. Mais ça va donner les zones dans lesquelles vous aimez jouer. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que y a des gens qui jouent un peu tout le temps de la même manière. Donc, c'est où, à quelle vitesse vous avez marqué. Alors, c'est une série. En fait, ça donne une batterie de statistiques d'utilisation. C'est pas tant pour le baby-foot parce que évidemment même les plus grands experts n'en ont absolument pas besoin, mais ça en dit beaucoup sur l'utilisation de l'IA qu'on peut faire à l'échelle du sport.
Mais on est à deux doigts de rajouter des voix de synthèse qui pourraient commenter les matchs.
Ça serait pas mal. Valeur proposée, je pense que derrière en plus il y a une autre start-up, c'est sur le stand AWS qui a pléthore de start-up sur l'IA, évidemment parce qu'ils passent tous par AWS pour les serveurs, et il y a notamment une start-up que j'ai bien aimée qui fait un avatar capable de parler en langue des signes. Donc, tu vois, on peut même faire les commentaires et les commentaires du match en langue des signes. Non, mais voilà, il y a plein d'utilisations de l'IA sur le sport, sur les données d'entraînement. De plus en plus, c'est un marché qui se développe à grande vitesse. Et voilà, là, c'est une illustration un peu rigolote.
Ça, mais la langue des signes pendant un match de baby-foot, c'est un peu difficile. Il faut essayer, tu parles ou tu joues. Mais tu peux pas faire les deux.
Tu peux pas suivre et tout faire.
Mais
tu
as raison de dire que la sport tech, hein, c'est une des grandes tendances aussi cette année, avec les JO en plus et tout ça. Il y a des boîtes hyper intéressantes. Là aussi, avec l'utilisation de l'IA, tu as raison, pour l'analyse de la performance, pour l'optimisation de la performance aussi. J'en ai vu une autre qui s'appelle
Vélos.
Alors là, pour le coup, ils font de l'analyse de vidéos, par exemple, de nageurs. Et ils vont optimiser la trajectoire des nageurs au centimètre près. Tu as aussi Ochi, moi j'aime bien la course à pied. Ochi, ils analysent la foulée d'un coureur. Même un coureur amateur, en fait, hein, tu peux le faire avec une application, y compris chez toi. Vous pouvez la télécharger aujourd'hui, cette appli. Et il va analyser si tu cours trop sur le talon, sur la pointe de pied. Et
c'est des choses. Il faut que quelqu'un te filme pendant que tu cours.
Ouais, c'est ça. On te filme pendant que tu cours. Et après, en fait, tu vas avoir une analyse posturale comme ce que tu as chez un podologue. Alors, c'est peut-être un petit peu moins précis que si tu vas chez le podologue. Mais c'est génial parce que c'est des sports qui sont très traumatisants. Dès que tu répètes le geste mal trop de fois, tu vas avoir une tendinite, tu vas te faire une déchirure, etc. Donc, c'est hyper intéressant aussi.
Mais il y a beaucoup de choses comme ça autour du sport. Sur l'analyse, il y a même des IA maintenant capables d'analyser vos vidéos d'entraînement. Donc, vous prenez et vous leur mettez. Vous la nourrissez et elle va vous sortir, en fait, comme dit Anthony, tous vos défauts, tout ce que vous faites bien, tous les points que vous pouvez améliorer dans le parcours d'entraînement aujourd'hui des sportifs.
L'IA te dit à la fin, arrête de courir, c'est trop dur.
Change de sport.
Va voir le sommelier connecté plutôt.
Fais du Netflix, c'est très bien comme sport.
Baby foot et vin. Mais on en rigole, mais c'est vrai que les JO sont hyper porteurs
bien sûr.
De fait à Paris, qui plus est. On sait que pendant les JO, il y aura énormément d'utilisation de l'IA sur le suivi des performances des compétitions, sur l'analyse des résultats. On va avoir de la data à plus quoi savoir en faire.
Bruno, j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue, puisque tu es outre-Atlantique, rappelons-le, tu vis au Canada, et tu observes un peu les boîtes américaines qui sont ici, à VivaTech, et tu aimerais nous donner ton point de vue sur la manière dont ils communiquent. Parce que ça t'a marqué?
Oui, parce qu'évidemment, moi, je suis habitué de les voir en terrain nord-américain, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, et ils sont un peu sur leur terre. Hein? Donc,
oui, alors qu'ici, non.
Non.
Eh oui.
Et on les sent être...
Un peu plus humble.
Humble, je pense que le mot est faible, mais on les sent presque craintifs. Alors, ils sont là pour montrer leur solution, mais on sent qu'ils marchent à tâtons et qu'ils ne veulent pas offusquer personne. Mais c'est...
Franchement, l'Europe leur mène pas la vie facile non plus. Hein, donc, je pense que...
Oui, c'est vrai.
On joue à
Thierry
domicile.
Breton voilà. Les attend au tournant. Hein.
Là, je pense que t'as, avec un gros marteau DMA, DSA...
Vaudois, là.
Ouais, on est au pays de la réglementation numérique. Hein. Donc, ils sont conscients de ça, mais c'est de les voir. Je m'entretenais avec quelqu'un et on sent que, le terrain pourrait être fait avec des boîtes d'œufs et ce serait pareil que là. Alors, ils se demandent, t'es qui? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et là, une fois que t'es positionné, OK, là, ils vont pouvoir te parler. Mais j'ai jamais vu ça dans les expositions américaines, nord-américaines. On rentre avec le camion, on défonce le terrain, c'est pas grave. Mais ici, et ça a changé, hein, parce que je me souviens, il y a plusieurs années, je les sentais moins prudents. Et là, cette année, et probablement que...
Tu penses que c'est justement à cause de la réglementation, ils sont un petit peu plus méfiants?
Non, pas méfiants, mais prudents.
Prudents.
Et je pense qu'il y a là la nuance, parce que justement, ils sont en train de proposer leur offre, leur nouvelle offre qui est en train de changer. On l'a vu dans les derniers mois. Et je pense que, justement, dans ce contexte-là, avec la réglementation qui est beaucoup plus forte ici et qui crée des précédents pour le reste de la planète, ils veulent faire attention pour ne pas créer d'incidents.
Mais là où je rejoins Bruno, VivaTech, on sait que les speakers qui vont s'exprimer ici, faire les grandes conférences, sont majoritairement américains. Et eux, pour le coup, viennent un peu comme des rockstars ici. Même Elon Musk, quand il n'est pas là, il est là. c'est marqué partout. Mais là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a un paradoxe sur VivaTech. C'est que VivaTech, depuis ses débuts, s'abrite sur des grands noms qui viennent avec des startups et qui devaient majoritairement être des startups étrangères. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, justement, vu qu'à c'était à une époque, c'était 60-40, on pouvait faire venir beaucoup de startups américaines qui étaient un peu là, rouler des mécaniques. Ça n'a jamais été le cas. Et vraiment, pourtant, il y a des grands noms ici. On a Microsoft, Amazon est là, Google... À une époque, je ne suis pas sûre qu'ils soient encore là, mais ils pourraient, mais on n'est pas à Las Vegas, on est chez nous, et c'est vrai que c'est un écosystème de networking ici, très francophone.
Ouais.
Et je pense que pour ça, ils ne peuvent pas communiquer de la même façon qu'au CES, où en effet, c'est de la démonstration. Là, ils sont beaucoup plus prudents. Le DSA et Thierry Breton à l'entrée qui les attend, ça ne doit pas aider non plus.
C'est vrai que ça doit... Ça.
Ils vont, c'est notre videur à nous qui ne dit pas les baskets.
À pas de velours.
Et puis, tu as aussi le fait qu'ici, contrairement à lorsqu'ils sont au CES, ils sont parmi leurs annonceurs en réalité, c'est-à-dire parmi leurs clients. Tu as Google, tu as Meta, même Elon Musk avec X. Ici, c'est organisé quand même, il y a Publicis derrière, tu as tous les grands groupes français, les LVMH, etc., qui sont des gros annonceurs aussi.
C'est vrai.
Je pense qu'il y a aussi ce côté opération séduction. C'est à la fois ne pas brusquer, tu as raison, et puis aussi venir, patte de velours, c'est exactement
oui,
ça.
Oui.
Musk, moi, je pense que, alors il doit parler en visio, hein, mais il y a aussi ce côté rassurer les annonceurs qui ont plutôt tendance à fuir X, parce que avec tout ce qui se passe sur X, ça les fait un petit peu flipper. Et là, je pense que, tu vois, en France, ils sont aussi dans cette optique. Là, c'est pas seulement une démonstration de force technologique pour eux, c'est aussi une opération séduction.
Ouais. Bien sûr, et puis c'est n'oublions pas qu'on est l'industrie du luxe, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'argent ici. Donc c'est vrai que même pour les géants américains, c'est un potentiel intéressant. Merci beaucoup à tous les trois. Ce de Quoi Je Me Mêle est terminé. Enfin, il est terminé. Si vous êtes sur BFM Business, si vous êtes en vidéo, parce que en podcast audio, on va se retrouver toujours avec Bruno Guglielminetti, avec Mélinda Davansoulas et Anthony. Et Mélinda, tu vas nous parler d'un produit qu'on attend depuis de nombreuses années, Ça sera le bonus de quoi je mail. C'est le casque Sonos. Il s'appelle Ace. Il a été annoncé. Il arrive début juin. Merci beaucoup, Bruno.
Au revoir.
Merci. Merci, Mélinda. Merci, merci Anthony.
Merci.
Et merci de nous suivre. Et pour avoir le module bonus, donc exclusivement en audio, c'est sur le podcast. Et on se retrouve, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, bien sûr. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.